Sarah Dorner est professeure titulaire à l'École polytechnique de Montréal. Bonjour, Mme Dorner.
Bonjour.
Alors, comment ça se fait qu'on n'en parle plus des algues bleues? C'est vrai que c'est complètement évacué de l'actualité, alors qu'il y a 3-4 ans, on nous annonçait une hécatombe épouvantable. Alors, j'ai pas l'impression que c'est réglé, hein?
Ce n'est pas réglé, puis on commence tout juste à entrer dans la saison des cyanobactéries. Alors, attendons quelques semaines encore pour voir ce que ça nous donne cette année.
Est-ce que c'est vrai que c'est en augmentation dans nos lacs année après année?
De façon générale, alors c'est une tendance mondiale. Alors, on n'a pas encore réglé les problèmes d'eutrophisation, puis en plus, ce qui s'ajoute à ça, c'est les changements climatiques. Alors, une augmentation générale des températures qui aide à la prolifération des cyanobactéries.
Donc, plus il fait chaud, plus les cyanobactéries se reproduisent. Donc, c'est pas appelé à baisser, donc.
Oui, alors c'est assez complexe, ça dépend des années, parce que ça dépend aussi des charges de nutriments qui arrivent, par exemple, au printemps. Mais cette année, on attend, par exemple, sur le lac Erie, l'ouest du lac Erie, on attend vraiment une année terrible pour les cyanobactéries. Alors, ça dépend un peu des bassins versants et de la météorologie.
Parce que les cyanobactéries sont transportées par l'eau d'aussi loin que le lac Erie?
Non, c'est vraiment un cas à part, mais
ouais.
C'est que c'est un problème global. Alors,
okay.
Ça dépend des situations, mais cette année, on s'attend aussi à avoir une année pas très bonne pour les cyanobactéries. Alors, pour les riverains, ça serait possiblement plus difficile parce qu'il y aurait il y a certains lacs qui sont plus touchés régulièrement.
Ouais.
Et ce sont ces lacs. On est en attente parce que notre équipe est en mode de suivi pour aller étudier ces lacs cet été.
Qu'est-ce qui favorise la prolifération des algues bleues-vertes?
Oui, alors c'est les charges de nutriments. Alors l'azote, le phosphore, il y a d'autres micronutriments, mais c'est principalement l'azote et le phosphore. Alors ça aide leur croissance. Et avec, si les températures sont optimales, on peut avoir une plus grande croissance. Il y a aussi les vents, parce que parfois on peut avoir des accumulations. Les cyanobactéries peuvent flotter dans un lac. Alors, si elles se retrouvent à la surface, les vents peuvent les pousser vers un endroit en particulier dans un lac. Alors, pour ces riverains en particulier, ce serait très mauvais de l'avoir juste à côté de chez eux.
Et cet azote-là et ce phosphore vient d'où? On avait ciblé à un moment donné, on parlait beaucoup des détergents, entre autres, là, qu'on utilise pour la lessive et tout ça. Est-ce que c'est une source importante de nutriments pour les cyanobactéries?
Oui, alors c'est important, mais on voit l'importance des sources diffuses et c'est pour ça que c'est très compliqué parce que c'est les sources, les terres agricoles où on a l'épandage de fumier, on a l'ajout des matières fertilisantes sur les terres agricoles et avec le ruissellement, on a le transport de ces nutriments vers les cours d'eau. Et ça, c'est compliqué à régler parce que ça vient un peu de partout. C'est sûr que les eaux usées, alors lorsqu'on a l'épuration des eaux usées, il y a un rejet. On pourrait faire mieux dans plusieurs cas. Il y a beaucoup de cas où on a des charges élevées d'azote, par exemple. Alors ça pourrait être réglé, mais vraiment la source principale, c'est les sources diffuses de contaminants. Et c'est pour ça que c'est plus difficile à régler à long terme.
OK. Et quel est l'impact sur le lac? Est-ce que ça vient tuer la faune des lacs où on en retrouve?
Parfois. Alors, par exemple, il y a eu la mortalité piscicole sur certains lacs. Alors, nous travaillons sur le lac Champlain, l'Abimisquoi. Ouais. Et il y a eu des proliférations importantes de cyanobactéries. Et après ces fleurs de cyanobactéries, il y a une mortalité soudaine. Et il y a une consommation. Les bactéries viennent consommer les cellules mortes et ça consomme de l'oxygène. Et là, il n'y a pas assez d'oxygène pour les poissons meurent. Et il y a aussi beaucoup d'ammoniac qui est aussi relargué et ça aussi, c'est difficile pour les poissons. Alors, il y a des endroits où ça peut causer la mortalité d'autres espèces.
Mais est-ce qu'on a des exemples de lacs, par exemple, où on en avait des algues bleues-vertes et on a réussi à les vaincre, à les éradiquer? Est-ce que ça existe ou si, quand on l'a dans le lac, c'est fichu?
Il y a des exemples. Si on regarde à l'échelle globale, il y a des traitements qui sont disponibles. Souvent, c'est pour des plus petits lacs où on enlève le phosphore de la colonne d'eau. Et là, ça empêche les proliférations. Puis, il faut aussi arrêter la source des nutriments. Donc, ouais. Il faut faire un travail assez important pour tout ça. Pour les lacs qui sont plus grands, c'est difficile de faire un traitement parce que il faut beaucoup de produits chimiques.
Ouais.
Nous, ce qu'on étudie, c'est aussi parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi l'eau potable, parce qu'on ne veut pas avoir ces cyanobactéries dans l'eau potable. Alors, on est en train d'étudier, est-ce possible de faire un traitement, parce que les cyanobactéries sont souvent poussées par les vents, est-ce qu'on pourrait faire un traitement à un endroit très précis pour enlever les cyanobactéries de la colonne d'eau et aussi en même temps le phosphore, et est-ce que ça pourrait aider? Mais ça, c'est juste à court terme, parce que pour régler le problème, il faut régler la source, et c'est les sources diffuses de contaminants qui sont difficiles à régler.
Merci beaucoup, Mme Dorner.
C'est possible.
Oui, okay, c'est possible, merci. Mais c'est beaucoup de travail, c'est ce que je comprends.
Ouais. Ouais,
merci bon. Beaucoup d'avoir été avec nous.
Au revoir.
Au revoir. Sarah Dorner est professeure titulaire à l'École polytechnique de Montréal. C'est pas réglé, les cyanobactéries dans nos lacs, même si on en parle moins.